Première radio de France.
Il est 17h sur France Inter. Le point sur l'info avec vous, Laetitia Gaillet.
Peut-on vivre sans menace de cyberattaque ? Aujourd'hui, ça semble vain. En France, par exemple, l'ANSSI, l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, affirme aujourd'hui que les Jeux de Paris n'y échapperont pas et que depuis 2020, on travaille à ce que ces cyberattaques nuisent le moins possible au déroulement de l'événement. En République tchèque et en Allemagne, le ton est monté d'un cran. Aujourd'hui, Berlin et Prague ont accusé Moscou d'être à l'origine de plusieurs cyberattaques ces derniers mois. Le gouvernement allemand a même convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de Russie à Berlin pour faire passer le message au Kremlin. Des entreprises ont été visées, mais aussi des responsables politiques, dont le SPD du chancelier. Les précisions à Berlin de Sébastien Baer.
Le parti social-démocrate d'Olaf Scholz a mentionné pour la première fois l'été dernier cette cyberattaque qui a ciblé les messageries électroniques de plusieurs membres de son comité de direction. Les pirates ont, semble-t-il, exploité une faille de sécurité dans Microsoft Outlook. Ils s'en sont pris également à des entreprises des secteurs de la logistique, de l'armement et de l'aérospatial. Plusieurs autres pays européens ont aussi été visés lors de cette même campagne de cyberattaque, la Pologne, la Lituanie, la Slovaquie et la Suède. APT28, c'est le nom du groupe mis en cause, est actif dans le monde entier depuis au moins 20 ans. Déjà en 2015, les pirates s'en étaient pris au Bundestag et puis deux ans plus tard au Parti démocrate américain juste avant le scrutin présidentiel. À quelques semaines des élections européennes, les autorités allemandes recommandent la plus grande vigilance et promettent que l'attaque ne restera pas sans suite, sans préciser la nature de la riposte envisagée. Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
Et sans surprise, Moscou juge infondées ces accusations du gouvernement allemand sur un contrôle du Kremlin sur des hackers russes. En France, depuis le début de l'après-midi, un rassemblement en soutien à la cause palestinienne a lieu à Paris, place du Panthéon, nouveau lieu de manifestation après l'évacuation de Sciences Po à Paris, mais aussi à Lyon, autre lieu de rassemblement. Matignon promet que la fermeté sera totale. L'image est spectaculaire, une voiture sur le toit juste à côté d'un RER, elle est tombée avec son conducteur d'un pont aujourd'hui sur les voies en gare de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Résultat, le trafic du RER C est depuis complètement à l'arrêt en Ile-de-France entre Paris-Austerlitz et Juvisy et Massy-Palaiseau dans l'Essonne et très perturbé sur le reste du réseau. À l'exception du conducteur de la voiture légèrement atteint, il n'y a pas eu de blessés chez les voyageurs du RER. La reprise du trafic est estimée pour 18 heures. On l'a appris aujourd'hui, un ingénieur est mort hier après-midi sur le chantier du tunnel de base de Lyon-Turin à Saint-Julien-Mont-Denis en Savoie. Les conditions de l'accident font l'objet d'une enquête car il y en a eu plusieurs depuis un an. Annabelle Galotti de France Bleu Pays de Savoie.
L'accident s'est déroulé à 17h dans le tunnel, c'est-à-dire sous la galerie en cours de percement à Saint-Julien-Mont-Denis. Le salarié qui est décédé était ingénieur, en lien notamment avec les élus locaux. Il était le numéro 2 du chantier opérationnel 8. Il était père de famille, âgé d'une soixantaine d'années. Il est décédé pendant son transport à l'hôpital de Grenoble. Un accident mortel donc dans la galerie en fin de journée, alors que hier après-midi, il y avait justement dans le tunnel des visites de chantier avec des représentants syndicaux. Le drame se serait déroulé juste après. La CGT cheminots indique avoir constaté des conditions de sécurité drastiques, je cite, sous les deux tubes du tunnel. Les syndicats sous le choc, comme tous ici, mais qui, avant ce drame, déploraient déjà les deux derniers accidents mortels sur ce chantier en novembre et en juillet dernier.
La pêche à pied des moules est interdite près de Ouistreham dans le Calvados. La faute à une possible contamination des eaux littorales selon la préfecture qui a pris un arrêté. Cela fait suite à des fortes pluies de ces derniers jours. Il y a eu des déversements importants d'eau usée et d'eau de pluie dans le fleuve Lorne. La pêche des coquillages, elle, est toujours interdite près du port de Plaisance. Alto, trop nombreux alpinistes sur l'Everest au Népal. La Cour suprême ordonne aujourd'hui de limiter le nombre de permis pour l'ascension de la montagne la plus haute du monde. C'était cette semaine, à l'occasion de la sortie du livre « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes » d'Olivier Estévez. Il est question du mal-être des musulmans en France. Écoutez ce qu'en ont dit à François Ventéjou, Sophie, récemment convertie à l'islam, et Ahmed, lui, c'était au moment de la vague d'attentats en France entre 2015 et 2016.
On m'a dit, bah là, tu peux pas vraiment jeûner parce que tu comprends, faut qu'on mange ensemble et puis avec les clients ou avec les... C'est assez sournois la façon dont on vous le dit pas, on vous dit pas, bah t'as un problème. Mais il y a ce malaise en fait.
Par exemple, moi au travail, on m'a demandé de me justifier sur ce que j'en pensais de ces attentats-là. Donc dès qu'il se passait quelque chose, il fallait que, en tant que musulman, je dise si j'étais choqué de ce qui venait de se passer, alors que c'est des choses abominables.
Bonsoir Claire Servergent.
Bonsoir Laetitia Gaillet.
Alors on vient d'entendre un extrait du reportage de François Ventéjou. La France, tu l'aimes mais tu la quittes. Le livre d'Olivier Estévez dit beaucoup de choses des musulmans en France. Et vous Claire, eh bien, vous avez voulu prolonger le débat ce soir dans le téléphone sonne.
Effectivement, parce que des témoignages comme ceux que vous venez d'entendre, il y en a beaucoup dans ce livre La France, tu l'aimes mais tu la quittes d'Olivier Estévez, Alice Picard et Julien Talpin, publié au Seuil. Ces trois chercheurs de l'Université de Lille ont interrogé un millier de Français partis vivre dans d'autres pays d'Europe, du Moyen-Orient, mais également aux États-Unis, au Canada. Ils leur ont demandé les raisons pour lesquelles ils ont choisi l'exil. Première raison avancée, pour moins subir le racisme et les discriminations. Deuxième raison, pour exercer sereinement ma religion. Troisième raison, pour progresser professionnellement. Car les personnes en question ont parfois du mal à trouver leur place dans le monde du travail, malgré leur diplôme. Et qui sait si la France est un pays de diplôme. Alors, pour en parler, nous serons avec l'un des auteurs de cette étude, Olivier Estévez, que vous avez cité, avec Saïda Mouche, qui a monté, il y a 15 ans, un cabinet de recrutement, Mosaïque RH, pour aider ceux dont le CV reste parfois en bas de la pile. Avec nous également Fatma Bouvet de la Maison Neuve, qui est médecin psychiatre, autrice d'un essai intitulé « Une arabe en France ». Pourquoi les Français de culture ou de confession musulmane diplômés prennent-ils la décision de quitter la France pour s'installer à l'étranger? On attend vos témoignages, vos questions au 01 45 24 7000 à partir de 18h ou plus 33 01 45 24 plus 33 1 45 24 7000 si vous appelez de l'étranger. Okay. Le téléphone sonne, Laetitia, c'est à 19h20.
Merci Claire Servagent. Enfin, c'est assez rare pour être souligné pour une BD en dehors d'Astérix. Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain, sorti en 2021, vient de dépasser le million d'albums. Le monde sans fin qui tire le signal d'alarme sur le climat, mais qui dit aussi que la solution viendra de chacun de nous. Vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. 17h06 sur Inter.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce mardi,
je m'appelle Zao.
Faites toujours beau au-dessus des nuages.
Zao de Sagazan, la voix de la nouvelle génération. Par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Dylan Corley.
Dis-moi ce je t'aime.
Un concert unique en direct et en public sur France Inter ce mardi à partir de 20h.
Ce sont les filles qui vous accompagnent cet après-midi, d'après-midi. Voilà, absolument. Ce sont les filles, elles sont formidables, elles s'appellent Marie Misset.
Oui,
Marie,
c'est ça, Laetitia Gaillet.
Et c'est incroyable parce qu'à chaque fois, elles disent la même chose.
Elles disent le nom de leur émission, en fait. Jusqu'ici, tout va bien.
Bah voilà, c'est ça.
Salut les filles.
Salut.
Bah,
bisous
Laetitia Gaillet.
Bisous.
Excellent week-end à vous.
Oh, ouais.
Bah oui.
Le retour de l'actu, c'est à 18h, mais là, il est 17h07 et 33 secondes. Vous êtes sur France Inter et jusqu'ici, tout va bien.
Bonjour Marine.
Bonjour Marie, bonjour les auditeurs.
Bonsoir les auditrices. On vous a déjà consacré une rétrospective à vous, personnellement, moi pas du tout. Et si ça existait, ça aurait la tête d'une autobiographie d'un homme de 28 ans. Non pas que je sois Jordan Bardella, mais il faudrait quand même chercher bien bien loin et pas être très regardant pour remplir le truc. Notre invité ce soir a 4 de ses films, pas tous, qui sont disponibles sur arte.tv et un cinquième qui sera diffusé le 22 mai. L'occasion de faire le bilan, calmement, d'une carrière où drames sociaux et intimes se répondent et permettent de comprendre le monde.
Ce soir, on reçoit donc le réalisateur Stéphane Brisé, dont le film En guerre sera diffusé sur Arte le 22 mai.
Et puis Stéphane Brisé, avant de se lancer à corps perdu dans des fresques sociales dans ses films, il a parlé d'amour. On a mélangé ses deux obsessions dans un shaker, on a tiré ce fil pour lui présenter une femme qui nous explique la version sombre de la loi du marché appliquée à la rencontre amoureuse version Tinder.
C'est Lysiane Larbani qui sera notre invitée passion cœur brisé.
Quant à Marine, et pour rester dans le thème, elle vous demande, à vous qui nous écoutez,
qu'est devenu votre premier amour? Pour répondre, vous pouvez nous envoyer un texto ou un message vocal sur le WhatsApp de l'émission. Le numéro, vous le connaissez, 01 45 24 7000. 01 45 24 7000.
Et puis pour aujourd'hui, tu as testé apprendre la guitare avec Francis Cabrel. T'as
oui,
de la chance.
Oui, mais j'avais pas de guitare. Ah bah c'est moins pratique. Ouais,
méthode Phoebe Buffay, ça a fait ses preuves. Une émission pour débusquer le réel avec un homme en quête de vérité.
Et une femme en quête de mensonge.
Jusqu'ici, tout va bien. L'émission qui chahute les idées, c'est jusqu'à 18h.
France Inter, Marie Misset et Marine Baousson. Jusqu'ici, tout va bien.
quotidien.
Bonjour Stéphane Brisé.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur, au cas où on ne l'avait pas saisi. Arte vous consacre donc cette rétrospective partielle, c'est peut-être un grand mot, qui a commencé le 1er mai. Jusqu'à octobre, on pourra regarder Je ne suis pas là pour être aimé, Mademoiselle Chambon, Quelques heures du printemps et L'œil qui traîne. Et puis on pourra voir En guerre le 22 mai à la télé sur Arte toujours. Il y aura aussi un grand entretien au cas où cette émission ne suffirait pas, qu'on peut regarder.
Mais la moitié des films, quand même. 5 sur 10.
Minutes, voilà. Mais c'est pas tout. Ce qui vous met en mouvement de manière générale, c'est les dysfonctionnements, que ce soit au niveau intime, comme dans Hors saison ou Mademoiselle Chambon, ou social, comme les trois films sur le monde du travail que vous avez réalisés avec Vincent Lindon dedans, La loi du marché, En guerre et Un autre monde. Vous avez aussi toujours réalisé des films pour trouver votre place tout en filmant, et ça c'est notre avis avec Marine, l'instabilité et les tremblements. Une rétrospective, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on se dit, du coup, c'est bon, j'ai trouvé ma place, ou alors c'est quelque chose qui reste toujours à négocier?
Non, je vais vous dire, en fait, vous me dites la phrase et je ressens un truc très angoissant. Je dis, putain, ça sent le sapin. Quand on met des Césars d'honneur, je dis, oh là là, ça commence à sentir le sapin. Mais en tout cas, qui est le désir de faire un petit point comme ça, de faire revisiter, parce que la télévision, ça touche quand même immédiatement beaucoup de monde. C'est super, les films vivent. Ça, quand même, assez mystérieux et génial, c'est que les films, ils ont été faits il y a longtemps et ils vivent et ils repassent et ils deviennent ce qui n'est plus du tout mon actualité, peut devenir l'actualité d'un spectateur à ce moment-là. Je trouve ça assez magique.
Ouais. Et est-ce que ça vous fait réaliser des fils invisibles qui les relient ou pas du tout? Est-ce que vous les voyez ensemble?
Non, je laisse le soin à ceux qui regardent, à faire des liens. Moi, j'ai conscience de certains, mais qui n'ont pas plus de vérité que les liens que font les gens qui voient les films.
Mais là, vous allez les regarder ou pas, du coup?
Non. Non.
Stéphane Brisé, nous, on est comme vous, on aime bien explorer l'invisible chez les gens, ou en tout cas montrer l'invisible des autres aux autres. Cette phrase n'est pas terrible. On explore vos contradictions, on vous donne des phrases à compléter, mais il y a un mais.
Stéphane Brisé, votre père était facteur, mais...
S'il avait été sécurisé par son travail, c'est un travail, il était fonctionnaire, c'est quelqu'un qui n'était pas parvenu à se sentir profondément sécurisé. Il venait d'un milieu extrêmement pauvre et il a vécu avec une forme d'insécurité, et je l'ai compris bien plus tard, une insécurité sociale, que c'était ce qui avait provoqué une difficulté à comprendre mon chemin à moi.
Bah justement, à 19 ans, malgré un boulot à France 3 Rennes, vous prenez un aller sans retour pour Montparnasse, mais...
Alors, je vais mettre le « mais » avant l'aller sans retour à Montparnasse. J'avais un boulot, mais j'ai pris un aller sans retour à Montparnasse.
Non,
parce que dans la phrase, c'est ce qui s'oppose. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui faisait sens. J'avais commencé à travailler à la télé juste après mon DUT d'électronique. Et justement, ça, c'était un endroit du monde qui était ultra sécurisant pour mon père, parce que je touchais immédiatement un bon salaire. Je gagnais plus d'argent que lui d'entrée de jeu. Et puis, je décide, un an après, de prendre un billet de train pour Paris, où je n'avais jamais mis les pieds. Et ça a été justement hyper insécurisant.
Ouais, quelque chose qu'il n'a pas vraiment compris.
Oui, à ce moment-là. Et puis, quelques années après, il a compris. Chacun a fait son chemin. Et ça, c'était chouette de pouvoir se retrouver.
Vous dites que vous avez grandi dans un monde où la culture avait peu de place, mais...
Mais étrangement, tous mes frères et sœurs sont quand même des gens très cultivés. Je ne sais pas comment cette appétence... Je ne sais pas. En fait, c'est un mystère et il y a des questions, c'est très difficile, parfois impossible de répondre. Ça reste des mystères. Il y a quand même quelque chose qui est devenu nécessaire pour chacun. Parce que moi, j'avais un frère qui était... Mon frère aîné qui était prof, mais qui peignait, qui a fait des expos de peinture. J'ai une sœur qui est ultra cultivée, qui...
Il y a un truc à fouiller, Stéphane Brisé.
Voilà.
Vous en occupiez.
Mais donc voilà, tous les frères et sœurs sont quand même une très, très grosse appétence pour la culture, toutes les cultures.
Vous vous êtes intéressé à la violence du monde du travail, mais...
Mais pas que. Pas que la violence du monde du travail, la violence aussi des sentiments. En fait, toutes les violences, donc tous les dysfonctionnements sont intéressants à regarder. On fait des films avec des trains qui arrivent en retard.
Vous avez, et pas que avec des trains qui arrivent en retard, mais aussi avec Vincent Lindon. Vous avez tourné 5 films avec Vincent Lindon, mais...
Mais à chaque fois que je lui ai proposé un film, je me suis toujours posé la question en amont de savoir si c'était vraiment, je me sentais pas obligé à quelque chose. Si c'était vraiment juste de lui proposer, que ça soit pas un espèce de réflexe,
un automatisme. J'ai même entendu que vous lui aviez fait passer des castings, même pour genre le quatrième ou le cinquième film.
Non, c'est pas vrai.
Un autre monde, non?
Ah bon?
Non. Il y a jamais.
On m'a menti.
Non, peut-être qu'il y a eu. En fait, ce que je fais avant, souvent, enfin depuis un certain nombre de films, je fais une journée de tournage. En amont du tournage, avec toute l'équipe, je teste quelque chose du dispositif, mais je suis pas en train de tester
la personne.
Vincent Lindon va faire quelque chose de sa vie.
Non. Mais ça m'est jamais venu à l'esprit quand même d'aller tester Vincent. Non.
Et la dernière, vous avez trouvé votre place dans la société, mais.
Mais j'en suis même pas toujours certain quand je me lève le matin.
Merci Stéphane Brisé. Pour moi, vous êtes pile au bon endroit. Stéphane Brisé, vous faites des allers-retours entre film social, film intime, pour éclairer nos vies, la vôtre aussi. C'est cet engagement au plus près du réel pour comprendre le monde qu'on va explorer dans quelques minutes. Et puis en miroir à votre film Hors Saison, on a eu envie de vous demander, à vous qui nous écoutez,
qu'est devenu votre premier amour, toi Marie par exemple?
Alors écoute, c'est très gênant parce que je le sais, alors que je pense qu'il ne sait pas tout à fait que j'existe, puisque ça a été un amour très très fort, hein, qui m'a porté du CE2 au CM2 au moins.
Ah, c'est extrêmement précis.
Voilà. Mais dont on n'a jamais vraiment parlé ensemble. Je sais qu'il a un enfant, je sais où il vit, je sais ce qu'il fait comme métier.
Tu vois, angoisse. Hyper angoissant.
Vous aviez le même âge.
On avait le même âge,
ouais, d'accord. Et quand tu parles de lui, est-ce que tu dis forcément son nom et son prénom?
Bien sûr.
Évidemment.
Que je n'irai absolument pas ce soir.
Bah, bien sûr que non, mais tu fais un peu flipper. Mais vous, qu'est devenu votre premier amour? Écrivez-nous sur WhatsApp au 01 45 24 7000. Laissez-nous des petits messages vocaux ou sur l'Instagram de l'émission. Jusqu'ici, tout va bien. _ France Inter.
Et en attendant de vous lire et de savoir si, comme moi, vous espionnez encore quelqu'un que vous aimiez il y a 30 ans, 20 ans ou 2 ans, nous aussi, on exhume le passé avec cet inédit de Johnny Cash basé sur des démos jamais diffusé de 1993, c'est Songwriter sur France Inter.
I met her at the laundromat, she was washing extra hot. I said, don't you need a little help with that big load you got? She said no, but did a double take, and then she smiled and said, I might. As I rolled up my sleeves, I said to myself, well, all right, well, all right. I put it on automatic, and she sat down on the floor. She said, just keep it on medium hot. I said, I've done this before. Then I opened up the dryer, and I set it on soft and light. She said, be gentle with my silk and lace. And I said, well, all right. Mm-hmm. Well, all right. Her clothes were in the basket, folded down so nice and warm. She headed for the door, and I said, I will take you home. She said, I just live up the street. I said, it's a dangerous night. Take my arm and I'll carry the basket. And she said, well, all right. Well, all right. The world's half full of women, and the world's half full of men. And sometimes one or the other opens up to let one in. But the one I met at the laundromat that dangerous, beautiful night said, yes, I do, and yes, I will. And I said, well, all right. Mm-hmm.
C'était Johnny Cash avec Well Alright, alors que vous nous révéliez, Stéphane Brisé, que vous ne compreniez rien aux chansons en anglais quand elles étaient chantées.
Ah, il n'en faut rien vous dire. Off.
Exactement, vous avez compris la leçon, vous êtes sur France
Inter. Et elle peut vous stalker, elle vous l'a expliqué.
Stéphane Brisé, vous avez une filmographie qu'on aurait presque envie de séparer en deux. D'un côté, les réflexions sur l'amour, le couple, la famille, de l'autre, sur le monde du travail, même si évidemment, il y a des porosités entre les deux qui sont manifestes, notamment dans Un autre monde, où vous mettez en scène un cadre qui divorce et doit exécuter un plan social en même temps. Après 3 films sur le monde du travail, vous étiez revenu à l'intime dans Hors Saison. Vous faites des films pour comprendre le monde et votre place dedans. Ce besoin de retour à l'intime, ça dit quoi du monde, Stéphane Brisé? J'imagine que vous y avez réfléchi, et de votre place de cinéaste à l'intérieur.
Ouais, alors sur Hors Saison que je viens de faire avec Guillaume Canet et Albert Ravacker, il y avait il y a eu cette nécessité après les 3 films, et même je vais rajouter même une vie qui était qui était un film pas social, mais qui s'inscrivait avec les trois autres, La loi du marché en guerre, Un autre monde, sur des films de désillusion. Pour moi, c'est ça que j'en avais pas conscience en le faisant, mais c'est toutes ces années où j'ai fait, pendant les 6 ans où j'ai fabriqué ces films, moi je traverse avec le personnage, avec les personnages, je traverse quelque chose de leur intime. Moi, c'est ma façon de, ce que vous disiez, de mieux comprendre le monde, mieux comprendre moi dans le monde. Et je comprends, en fait, c'était ma période des illusions, que j'avais besoin de travailler cette matière. Et à l'issue de ça, il y a quand même je suis éprouvé.
Et c'est vrai que c'est tous des films où le personnage croit au début au monde du travail. Enfin, en tout cas,
il croit en la famille, il croit dans le monde du travail, il croit dans le syndicat, il croit en quelque chose très très fortement. Et il tombe de très haut. Et moi, je suis quelqu'un qui suis tombé de très haut très souvent. En fait, j'ai un côté un peu naïf, un peu fleur bleue à la base. Après, on construit des défenses pour pas basculer dans l'amertume, dans le cynisme, qui sont pour moi un peu des défaites. Et à ce moment-là, et puis c'était pas n'importe quel moment du monde, c'était qu'à l'issue de ces trois films sociaux, il y a eu le Covid, où là, on est quand même rentré dans quelque chose de complètement surréaliste, où on était bloqué chez nous, et on avait une petite fenêtre sur le monde, c'était ou la télé ou la radio, où on comptait les morts. Tous les jours, on comptait les morts. Donc, dans un climat hyper morbide, sans savoir exactement ce qu'était cette maladie. On comptait les morts sans les voir. Ils étaient planqués. Les familles ne voyaient même pas les morts. Donc, c'était comme un climat ultra anxiogène, profondément. Et je pense que, assez naturellement, mais comme un réflexe de survie, on s'est tous retrouvés mécaniquement avec des questions très existentielles. Et les questions les plus existentielles, c'est des questions sur le lien, sur l'amour, qu'est-ce qui nous lie, sur des questions de l'hyper intime. Et je suis sûr que ça a très fortement irrigué la nécessité de hors saison. Aussi, il faut faire attention quand on devient très identifié à un cinéma.
Arriver là où on ne vous attend plus.
Bah, c'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas devenir la caricature de soi-même et de devenir le réalisateur de gauche énervé qui va... Voilà. Et faut aussi se réinventer, et que c'est un endroit de liberté. Je me suis autorisé à un endroit de liberté de faire des films. Il ne s'agit pas de me réenfermer dans une obligation, dans une injonction, quelque part.
Mais quand même, vous aviez prévu à la base de lancer un quatrième film sur le monde du travail. Vous aviez même commencé à écrire.
Et voilà.
Est-ce que le scénario est devenu obsolète tellement le monde du travail a changé à cause ou avec le Covid ?
Non,
c'est bizarre que vous le soyez en train de le préparer.
Non, il n'est pas obsolète. Ce que j'ai découvert en écrivant La loi du marché en guerre et un autre monde avec mon camarade Olivier Gorce, c'est que c'est des films qui se sont construits avec l'intuition de l'endroit du monde qu'on voulait observer, mais ils se sont construits en rencontrant des gens. Un autre monde, en rencontrant des cadres qui avaient vécu peu ou prou quelque chose qui avait à voir avec ce dont on voulait parler. En guerre, J'ai rencontré Xavier Mathieu, qui a été le lead leader de Continental, mais j'avais rencontré des avocats, des cadres, etc. Donc à chaque fois, c'est des films qui se sont construits sur des témoignages. Et ensuite, on a fabriqué la dramaturgie.
Une idée de départ, des témoignages,
voilà.
Et après, une histoire qui naît.
Pour comprendre ce qui se passe, pour dépasser même nos propres clichés d'espace, la frustration qu'on a eue, c'était qu'il fallait systématiquement baisser le curseur du réel pour que ces films réalistes aient l'air vrais.
Ouais.
Donc, et se dire, mais est-ce que pour...
Nicolas Mathieu, qui disait ça il n'y a pas longtemps sur Instagram, il avait surpris une conversation entre deux personnes au bar. Il a dit, je ne peux pas écrire ça tellement ça a l'air caricatural.
C'est très fréquent. Et je pense que, vous voyez, quand Ruben Östlund fait Sans filtre, il parle de notre monde, mais il en parle presque sous une forme de farce. J'étais très frappé, je dis, mais il est encore plus près de la vérité, mais pour se rapprocher au plus près de la vérité, elle est tellement dingue qu'il faut peut-être justement changer de ton. Et c'est à partir de cette réflexion que j'ai écrit.
Le quatrième arrive.
Voilà, qui s'appelle pour l'instant Un bon petit soldat, et qui change aussi de ton par rapport aux trois précédents.
Vous faites un cinéma qui est sensible. Vous offrez à vos personnages des temps longs à l'écran pour qu'on ait bien le temps de voir leurs hésitations, leurs doutes, leur fonctionnement. Vous aimez penser vos héros comme des gens qui ne sont pas des héros, ou alors c'est notre vision du héros qui n'est pas bonne selon vous ?
Moi, je trouve ça héroïque d'être sur Terre. Je trouve que c'est la chose la plus héroïque. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai beaucoup parlé au moment des entretiens, des interviews avec Hors Saison, ce personnage qui était qui est acteur de cinéma, que joue Guillaume Canet. Je trouve que c'est l'acteur et que la parabole de notre propre humanité et que l'acteur, je le trouve héroïque. Mais nous, je nous trouve héroïque. Je trouve qu'il est
réveiller, de nous lever, de faire des trucs.
Mais d'être au monde. C'est-à-dire que si, à la naissance, on avait une minute de conscience et qu'il y avait quelqu'un qui dit « Je vais t'expliquer ce qui va se passer. » Mais je vais t'expliquer. Ça va durer... Bon, toi, tu as de la chance, ça va durer 89 ans. Mais je vais t'expliquer tout ce qui va se passer. À commencer par les angoisses sur les interros, les décès, les ruptures les amoureuses, chagrins. Les chagrins,
on
tout ça.
On n'irait pas, vous pensez.
C'est la phrase de Marcel Pagnol, là, qui dit « La vie, c'est plus de chagrin que de joie, mais il ne faut pas le dire aux enfants. » Vraiment, ce n'est pas du tout la phrase exacte.
C'est une phrase à peu près de Marcel.
C'est Jean-Michel à peu près.
Marcel, presque Pagnol.
Je trouve qu'il est possible que si on nous demandait si on était capable de sauter tous ces obstacles, on ne le ferait pas. On re-rentrerait dans la maman. Alors qu'on le fait... Et le nombre d'obstacles, on est héroïque à le faire. C'est incroyable, je trouve ça bouleversant, toute l'énergie, toute l'intelligence qu'il faut pour à convoquer tout au long d'une vie pour pouvoir la traverser et être le plus en paix possible.
Et alors, vous écrivez pour comprendre les mécanismes humains. Qu'est-ce que vous comprendrez jamais? C'est quoi le truc que vous avez renoncé à comprendre à travers vos films?
Grosse, ces énormes questions là. On est sur
En fait, on y a pensé avec Marine et je lui ai dit c'est gros quand même.
C'est vrai, je te l'ai dit.
Peut-être que vous avez une réponse.
Mais non, qu'est-ce que je ne découvrirai jamais? Non, mais je découvrais rien sur rien. Je participe. Sur chaque sujet, il y a un terrain d'investigation. J'y apporte mes réflexions du moment, pas tellement des réponses d'ailleurs. Je fais pas des films en forme de réponses, mais plutôt je structure plus des questions qui sont des questions aussi liées au moment où je les fabrique. Mais je ne répondrai à rien puisque chacun de ces sujets sera aussi traité par quelqu'un d'autre au même moment ou dans quelques années ou dans 100 ans ou dans 1000 ans.
C'est pour la beauté du geste finalement.
C'est pour donner du
grain à
moudre. Pour donner du sens à quand je me lève le matin. Il faut quand même que tout ça ait un petit sens pour tenir jusqu'au soir.
Et pour vous répondre, je vous donne la vraie citation de Marcel Pagnol qui peut me faire pleurer, Marine.
Attention.
Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants.
Et c'était quand même pas mal écrit. C'est bien écrit.
Moi j'ai bien aimé ta version.
Faut pas le dire aux enfants. Et puis on le disait dans Hors Saison, deux personnes qui se sont séparées il y a 15 ans se retrouvent par hasard dans une station balnéaire. D'où cette question qu'on vous pose à vous qui nous écoutez.
Qu'est devenu votre premier amour? On n'oublie jamais son premier amour. La preuve, ce soir, avec nos auditeurs et nos auditrices, on a Sève qui nous dit « Mon premier amour est devenu mon témoin de mariage parce que s'il ne m'avait pas largué, je n'aurais pas rencontré l'homme que j'aime depuis 20 ans. » Merci Séverine.
Une sorte de petite vengeance, en
mais
vrai.
Mais oui, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Alors, on a un autre message. Attendez, je le cherche, tac, je suis perdue. On a un autre message de Louise qui nous dit « Il est devenu footballeur professionnel. Quand j'imagine le scénario, si on avait dépassé 2 semaines d'idylle en 5e, je suis morte de rire. J'aurais un tout autre quotidien. » Ah bah, tu m'étonnes, puis tu aurais sûrement plus d'argent, ma Louise.
Je crois que c'est ça qu'elle veut dire, Marine. C'est ça, le sous-texte.
Et puis surtout, on a reçu un vocal.
Salut les mamas, c'est Nathalie du Cantal. Comme tous les jours, j'attends avec impatience la question que vous nous posez. Alors, j'ai toujours une réponse, mais il y a des jours où je n'ose même pas répondre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous répondre parce que je trouve ce sujet très beau. Mon premier amour, il est devenu le père de mes enfants, mon premier et seul amour. Et mon ex, et il restera le seul. Voilà, merci pour vos émissions.
Merci à vous et n'hésitez pas à oser tous les jours.
Mais oui, il faut oser tous les jours. Mais vous, qu'est devenu votre premier amour? Continuez de nous écrire ou de nous envoyer des messages vocaux au 01 45 24 7000. Et puis il y a l'Instagram de l'émission. Jusqu'ici, tout va bien, _ France Inter.
Oui, tout va bien, mais c'est bientôt l'heure de tirer le fil. Stéphane Brisé, les relations amoureuses vous interrogent. Et tout comme le travail ces dernières années, elles ont été pas mal bousculées par les technologies. On a eu envie de vous présenter quelqu'un qui vous donnera peut-être de l'inspiration pour un nouveau film. Quelqu'un qui a enquêté sur un homme qui utilise la violence de la loi du marché pour ses relations amoureuses.
Ça sera Passion Cœur Brisé sur France Inter avec Lysiane Larbany.
Et avant de se lancer dans une terrible histoire et dans la violence que peuvent provoquer les nouvelles règles de la rencontre amoureuse, on prend un peu de hauteur, on se permet de rêver quand même avec Zao de Sagazan, c'est Je rêve sur France Inter.
Je ferme les yeux, nous imaginons là, nous deux. Entrelacés, lèvres asséchées par l'amour, l'amour de l'autre. Je rêve, je rêve, je rêve, oh oui, je rêve. Je ressasse nos souvenirs que le temps tente désespérément de détruire. Se glisse un sourire et des larmes au coin de mes yeux. Comment penser l'avenir, penser hier en guérir. Oh, je rêve, je rêve, je rêve, oh oui, je rêve. Je rêve, je rêve, je rêve que tu es là avec moi. Je rêve, oui, je rêve, je rêve, mais tu n'es pas, non, tu n'es pas, pas vraiment là. Je rêve. Je rêve, je rêve que tu sois là, que tu sois là, que tu sois là.
C'était Zao de Sagazan qu'on retrouvera mardi prochain sur France Inter à 20h en formation symphonique. Et vous venez d'écouter.
Je crois qu'elle est en formation.
Oui, elle est en formation. Ouais, petit truc à apprendre.
Formation coiffure.
C'est ça,
sur France Inter, en direct.
Jusqu'ici, tout va bien. Marie Misset et Marine Baousson sur France Inter.
Ben ça, le terme adéquat en formation symphonique.
Moi, si, j'avais mais l'impression t'as fait en formation et le silence d'après m'a fait. Je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive? Elle, fait une petite elle se réinsère quelque part. Bon, je termine cette phrase.
On est avec le réalisateur Stéphane Brisé. Alors, toute la première partie de votre filmographie, Stéphane explore les relations intimes. Puis, vous avez déplacé votre caméra vers les dysfonctionnements systémiques et notamment la violence que le capitalisme exerce sur les plus faibles. Alors, il y a un endroit où on a mis amour et capitalisme dans une centrifugeuse. Ce sont les applis de rencontre. Acteur aujourd'hui incontournable dans un marché de l'amour où l'offre et la demande se rencontrent avec parfois quelques dégâts collatéraux. C'est ce fil des dégâts qu'on a voulu tirer avec vous.
C'est Passion Cœur Brisé sur France Inter, introduite aujourd'hui par des extraits du podcast Lover Voleur et du film L'Arnaqueur.
J'ai failli ne pas aller à notre premier rendez-vous. Parce que ce jour-là, il ne m'avait pas donné de nouvelles de toute la journée. J'avais tenté de le joindre. Mon instinct me disait de ne pas y aller. En fait, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, j'étais persuadée que son silence de toute la journée, c'est parce qu'il était en rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Et en fait, il s'est avéré après avec les autres filles, quand on a regroupé nos emplois du temps, etc. En fait, effectivement, il était avec quelqu'un d'autre ce dimanche-là et c'est la raison pour laquelle il ne répondait pas à mes messages.
Notre meilleure amie sort avec un égoïste.
Ma gardienne vit avec un con.
Ma cousine vit avec une burbe.
Mon nom est Alex Lippi. Je suis briseur de couple professionnel. Voici mon équipe. Mélanie, ma sœur, et Marc, son mari.
C'est pour venir en aide à toutes ces femmes que nous existons.
Bonjour Lysiane Larbani.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez sur des faits judiciaires et de société. 1m90, sérieux et rieur, réfléchi et spontané, calme, mais porteur d'un grain de folie. Je joue du piano, ça me détend, j'aime rire, lire et danser. Votre dernière enquête en date vous a mené vers ce profil Tinder de Lesti ou Calvin ou Tiam, celui d'un homme de 39 ans, féru d'applications de rencontres, qui aurait multiplié les mensonges pour entretenir des relations avec plusieurs dizaines de femmes entre 2019 et 2023. Dans le podcast de Louis Média Lover Voleur, sorti fin avril, trois d'entre elles vous racontent leur histoire et les traces laissées par un mirage relationnel comme les réseaux sociaux semblent en produire de plus en plus. Alors comment vous avez été menée, Lysiane, à vous intéresser à cette histoire que vous publiez d'abord sous la forme d'une enquête sur Libération en décembre 2023?
En fait, le point de départ, c'est une rencontre avec une femme en 2022.
qui a rencontré Lesti sur Tinder en 2019 et avec qui elle a eu une relation certes courte mais assez chaotique. Et dans cette relation, elle a découvert notamment à la fin qu'il lui avait menti sur son identité, sur de nombreux éléments de sa vie personnelle. Et même si ça n'a pas duré longtemps, ça a quand même laissé des traces sur sa confiance, notamment envers les hommes. Et lorsqu'elle me raconte cette histoire, je me dis, mais attends, mais il a quand même plus de 35 ans, il a l'air hyper doué dans tout ce qui est relations parasociales, à mon avis, t'es pas la seule à qui c'est arrivé ça. Et elle était pas du tout au courant qu'il y avait en réalité beaucoup, beaucoup d'autres femmes. Et en fait, petit à petit, donc dans la foulée de ce témoignage, on a déjà retrouvé 5 femmes. Donc c'était il y a 2 ans. Et ensuite, j'ai été contactée, parce que je suis restée en contact évidemment avec les filles, par Elsa, qui apparaît dans l'Overvoleur. Et qui en fait m'appelle remontée comme un coucou en me disant « Mais je me suis fait avoir par Lesti au mois de juillet à l'aéroport. Et j'ai tout fait pour retrouver d'autres filles. On est déjà plus d'une dizaine. » Donc c'est comme ça.
Que l'enquête commence. Stéphane Brisé, vous avez dit dans le podcast Disparaître que vous aviez été sur des applis de rencontre.
J'ai dit ça ?
Ouais, vous l'avez dit. Ouais.
C'était quand ?
Ouais, bah, c'était il n'y a pas longtemps.
Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais j'y étais il y a longtemps.
Oui, j'imagine. Qu'est-ce qui vous a frappé en tant que personne qui n'a pas vraiment grandi avec ça ? Dont ça n'a pas été le marqueur des premières
relations. Il y avait un truc assez mystérieux sur ça quand j'ai fait ça. Et ce qui m'a frappé, en fait, c'est le côté supermarché, en fait. C'est qu'on est là de...
On fait ses petites courses, mais qui étaient déjà...
Ouais, mais il y a une grande, grande violence. En fait, la grande violence, c'est que je me suis dit, si on n'est pas un peu bien dans ses baskets, de se faire bananer comme ça... là, c'était l'appli, il y avait des discussions, puis après, on pouvait montrer sa photo, et la personne dit, ça ne m'intéresse plus, c'est quand même d'une très grande violence. Donc, j'ai ressenti quelque chose d'ultra-violent, parce que là, on est dans la société de consommation. Alors, les applis, on swipe, c'est ça ? Pardon, excusez-moi.
Vous l'avez.
Le boomer qui est à l'œuvre. On swipe, et il y a... D'ailleurs, dans ce que je suis en train de dire, je l'ai mis, ça. Et ce que je trouve... Et dans ces applis, il y avait... Alors, j'imagine que c'est toujours le cas. On disait ce qu'on aimait faire, tennis, machin, etc., char à voile et tout.
Vous aimez aussi, le char à voile ?
Non, mais j'invente. Mais c'était aussi... On mettait aussi son salaire, son créneau de salaire. Est-ce qu'on gagne de temps à temps, de temps à temps ? À ce moment-là, on peut proposer n'importe quel récit.
Oui,
on peut. Et c'est toujours une histoire de récit, là. Donc, il y a une... C'est comme dans un grand magasin. Dans un grand magasin, on veut mettre en valeur les produits.
Mais d'ailleurs, le premier logo d'Adopte un mec, on s'en rappelle, et c'est
oui,
peut-être encore celui-là.
C'est un caddie.
C'est très assumé.
Donc, il y a quelque chose d'évidemment fascinant. C'est comme tout, comment on utilise la chose. Après, qui est le dysfonctionnement personnel de quelqu'un qui va créer aussi des souffrances à l'extérieur. Mais tous ces lieux de rencontre sont passionnants. C'est-à-dire que des gens qui mentent à d'autres, d'avoir 2-3 histoires en parallèle, ça existait depuis avant les applis. Temps, oui. Là, je pense que le côté industriel, c'est le fait de pouvoir contacter dans un temps record beaucoup, beaucoup de gens.
Justement, quand les femmes qui témoignent dans votre podcast, Lysiane, comprennent chacune dans leur coin que les 50 euros empruntés à l'une ont servi à acheter un bouquet de fleurs à l'autre, que la voiture qu'ils conduisaient tel jour appartenait à une telle, que la fois où on va la chercher devant le domicile, eh ben, c'est celui de quelqu'un d'autre, comment est-ce qu'elles parviennent à se retrouver à recouper ces relations parallèles pour former ce récit commun que vous nous livrez, vous ?
En fait, il y a un personnage qui est un peu évoqué dans le podcast, mais qui est en réalité très important dans l'histoire, c'est l'ex-femme de Lesti. Parce que c'est une femme vraiment assez extraordinaire, avec un très grand cœur, et qui a tourné la page de son mariage, mais qui s'est un peu investie d'une mission de pouvoir se rendre disponible auprès des femmes, parce qu'en fait, quand on connaît quelques infos sur Lesti, en fait, quand elle découvre ces femmes que c'est un mytho, qu'il a vraiment raconté n'importe quoi, elles vont se mettre en quête de vérité. Elles vont souvent tomber sur le profil de son ex-femme, et c'est elle qui, à chaque fois, va décrocher le téléphone pour aller les rassurer, pour aller leur dire t'inquiète pas, après ça ira mieux, tu vas passer à autre chose.
C'est une vraie solidarité féminine qui se met en marche. On peut voir d'ailleurs dans les autres histoires qui ressemblent à cette histoire, comme l'arnaqueur de Tinder, où les femmes finalement finissent par se parler. Il y a eu Serial Mytho aussi, qui était déjà sur Louis Media, qui raconte encore une histoire de mec qui ment, mais alors de manière un peu plus grave, hein, puisqu'il se marie
et
carrément.
Il est violent, lui.
Voilà, donc c'est pire. Mais oui, il y a quand même ces histoires-là derrière de solidarité féminine.
Oui, c'est indispensable en fait. À partir du moment où les femmes font front collectivement pour démasquer un arnaqueur, un mythomane. Ça leur permet aussi de se consoler parce que souvent il y a une culpabilisation totale. Enfin, comment je me suis fait avoir comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait moi dans ma vie pour tomber sur un arnaqueur pareil? Et en fait, la honte change de camp. En fait, une fois que chacune découvre qu'elles sont en réalité beaucoup plus nombreuses.
Mais alors moi, je suis absolument fascinée par tout ce que vous racontez. Mais il a fait quoi, par exemple, comme mensonge? Est-ce que c'était toujours des manigances pour récupérer des sous ou parfois il mentait juste gratos parce qu'il fallait qu'il s'en sorte, quoi?
Moi, je suis pas habilitée à dire de quelqu'un que c'est un mythomane, mais j'ai quand même l'impression que Lesti est un
mythomane.
Un énorme mythomane. Il ment pas forcément pour l'argent. L'argent, j'ai l'impression que c'est un peu un bonus. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive à escroquer une femme de quelques dizaines à plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, bon, là, c'est quand même, on est sur des grosses sommes, mais au quotidien, c'est pas l'argent qui compte, ça va être sa faculté à se rendre indispensable auprès d'une femme, à tout faire pour qu'elle se sente bien avec lui et pour qu'à la fin, elle soit vraiment lésée par cette histoire. Et pour... Par exemple, il ment sur des trucs totalement fous. Il dit qu'il a des amis architectes qui ont une grotte à Gisors, une grotte magnifique dont il envoie les photos. Et en fait, si tu passes les photos sur Google Lens, c'est la grotte des Beckham en Arkansas. Pareil, il dit qu'il est en vacances à Faro, dans une magnifique villa. Et en fait, Google Lens, encore une fois, c'est une villa en Sardaigne. Il a des vidéos de lui dans les embouteillages sur le périph' pour justifier un retard, alors qu'il est, si ça se trouve, à l'autre bout
de la France. Vraiment tout ce qu'il peut tout trouver tout comme temps, image ouais. Sur les réseaux. Ça vous inspire, Stéphane Brisé, vous qui êtes un grand fan de l'émission Les Pieds sur Terre, dont la productrice Sonia Kronlund vient de produire un film, L'Homme aux mille visages, sur une histoire un peu similaire.
Ouais, j'ai entendu le podcast l'autre jour, et puis j'ai vu l'affiche devant un cinéma, et j'ai fait le lien, je ne savais pas que c'était elle qui avait réalisé le film aussi. Non mais là, j'entendais ce que vous racontez, immédiatement, j'ai dit, putain, mais quel personnage évidemment fascinant.
Et Vincent c'est... Lindon, on serait super de...
Mais c'est toujours... Qu'est-ce qui fait qu'on... C'est... Le mec est fascinant, parce qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce qu'il fait. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est à quel récit on a voulu croire.
Pourquoi on y croit?
Pourquoi on y croit?
D'ailleurs, c'est ça que vous disiez dans le podcast Disparaître, sans vouloir vous citer vous-même, vous disiez, il y a quand même ce truc où, malgré tout... On a envie d'y croire ou on voit que les gens y croient
bien
à
sûr,
chaque fois.
C'est voilà. Toujours une histoire de récit. Donc, si l'histoire, elle peut exister, c'est qu'il y a deux personnes qui jouent leur partition. Alors, ça peut faire souffrir à un moment. Alors, est-ce que la personne, c'est juste d'accumuler les conquêtes amoureuses? Est-ce que c'est de voler les gens?
Est-ce que c'est de vivre mille vies?
Est-ce que c'est... Ouais, c'est quand même... C'est des personnages, évidemment, très étranges. Il y a quand même... ils sont quand même... Enfin, l'organisation de leur tête... pour pas se planter, c'est quand même un truc assez dingue. Et puis, mais aussi, quelle est la responsabilité de chacun à vouloir croire dans une histoire, mais dans n'importe quelle histoire. Des fois, on peut souffrir dans une entreprise, mais on a voulu croire à quelque chose, on nous a fait croire quelque chose, ça nous arrangeait tous.
C'est pas un moment. C'est pas la faute des femmes qui l'ont cru.
Comment?
C'est pas la faute des femmes qui l'ont cru.
Non, mais bien sûr. Mais quand on raconte des histoires, mon métier, c'est de fabriquer des récits. Je ne me positionne jamais, dans aucun cas, des films sociaux, des films pas sociaux, avec un méchant et un gentil. C'est qu'est-ce qui fait que chacun a besoin de vivre cette histoire. Et je ne me positionne pas en procureur, en fait, avec un gentil et un méchant. C'est pas... Moi, je n'écris pas les histoires comme ça.
En tout cas, on peut découvrir cette histoire, Lover, Voleur, ces quatre épisodes dans le podcast Passage de Louis Média. Merci beaucoup, Lysiane Larbani, d'être venue nous en parler. Peut-être vous retrouverez ça dans un film bientôt, quelque part, de Stéphane Brisé. C'est disponible sur louismedia.com et pas que... Stéphane Brisé, c'est bientôt l'heure de vous imposer mon obsession. C'est votre recours récurrent à des comédiens non professionnels. Je veux que vous me parliez de chacune des 600 personnes que vous avez vues pour faire le casting de En Guerre. Ça va prendre un peu de temps, mais il faut le faire.
Quant à moi, 17h53,
je vous raconterai comment j'ai joué de la guitare dans la cabane au fond du jardin. Et puis, vu votre filmographie, Stéphane Brisé, on n'a pas résisté. On écoute un hymne de la lutte ouvrière. C'est Bernard Lavilliers avec Les Mains d'Or sur France Inter.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial
fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or.
C'était Bernard Lavillier avec Les Mains d'Or dans Jusqu'ici, tout va bien. Et justement, Stéphane Brisé, sur un petit rapport, Arte diffusera votre film En guerre sur une lutte ouvrière. C'est le 22 mai. Et puis, alors, depuis le 1er mai, il y a quatre autres de vos films qui sont à voir sur arte.tv. On a le temps, on a jusqu'au 31 octobre, je crois, pour les regarder. Vous avez un certain tropisme pour les histoires d'amour, d'où cette question qu'on vous pose à vous qui nous écoutez.
Qu'est devenu votre premier amour? Et c'est absolument magnifique, tous les messages qu'on reçoit. Par exemple, on a reçu un message de Benjamin qui dit « Bonjour France Inter, mon premier amour c'était un garçon de mon âge qui aimait les garçons, mais il a fait sa vie avec une fille. Pendant des années, nous nous voyions, nous nous aimions, nous expérimentions. Les filles ne le satisfaisaient pas, mais il avait peur qu'on découvre sa sexualité. Je pense qu'il a fini par se résigner, il a quitté la ville de notre adolescence et nous ne nous sommes plus revus. Merci pour votre émission. » C'est assez joli. Dans un autre journal hein, qui nous dit « les films de votre invité me touchent plus que je ne le voudrais. Pourquoi ?» Il ne sait pas. Mais quant à ma récente rencontre avec mon...
Bah parfois, on n'a pas envie d'être bouleversé.
Bouleversé, c'est vrai. Et il précise, quant à ma récente rencontre avec mon premier amour, j'ai 70 ans, elle en a 72, je crains d'être le seul à en avoir gardé un souvenir ému. C'est très mignon. Et puis, on a reçu ce vocal.
Je suis avec vous, non, je suis avec vous.
Bonjour les mamas. Et bah moi, mon ex, je ne sais pas vraiment ce qu'il est devenu parce que je l'ai juste scrollé sur... Stalké. Je suis encore une boumeuse sur Facebook et j'ai juste vu qu'il était devenu dégueulasse. Donc à partir de là, je me suis dit que finalement, c'était pas si grave.
Voilà, bravo. Bah, c'est voilà.
Ouais, et bah, c'est super.
Je déteste qu'on parle de moi comme ça. Je trouve pas ça cool.
Et puis on a reçu un message de Frédéric qui dit mon premier amour est marié à mon ex meilleure amie. Et oui, et bah voilà, super. Mais voilà, il y a plein d'histoires assez jolies. Voilà,
et
des
vous,
gens qui se marient avec
amour,
leur premier
Stéphane
amour.
Brisé, elle est où?
Mon premier amour, en fait, je l'ai recroisé. On s'est revu l'autre fois à une présentation du film de mon film. On s'était déjà vu. Ouais, mais on s'était déjà gardé contact toutes ces années, parce que ça remonte. Hein. Donc c'était. Mais finalement, je me souviens du nom d'une fille dont j'étais amoureux en primaire.
Oui.
Je pourrais dire son prénom et
vous
son
voulez...
nom.
Ouais, allez-y.
Bah, je crois que ça se fait pas, non?
Ah, je croyais qu'ils sont prénoms, faire.
Mais c'est marrant de se souvenir comme ça.
Ah, mais ça va tout le temps ensemble, les prénoms et les noms en primaire.
Ouais. C'est. Elle avait un prénom marrant, comme moi j'ai un prénom marrant aussi. Comme un nom de famille marrant.
Non, c'est pas hilarant, je veux pas vous fixer.
C'était brisé, cela.
Mais alors, dans un autre genre, juste pour terminer quand même, on a Eric qui dit elle est à l'antenne actuellement. De qui parle. Enfin voilà, on ne sait pas qui est cette première amour.
C'est pas moi.
C'est pas Stéphane, mais sinon, c'est peut-être Marie, c'est peut-être moi, c'est peut-être Lysiane. On ne sait pas, voilà. Merci pour ce message. Rappelle-nous, Eric, si jamais c'est quelqu'un d'entre nous, on veut savoir.
C'est l'heure de vous imposer mon obsession, Stéphane.
Vous
Vous avez adoré le documentaire, on l'a dit, notamment le documentaire radio. Pourtant, vous, ce qui vous porte, c'est la fiction. Cela dit, vous avez souvent recours à des comédiens non professionnels à côté de vos têtes d'affiche. Alors, ça a atteint son paroxysme vraiment avec En Guerre, où à part Vincent Lindon, vous n'aviez que des non professionnels.
La loi du marché aussi.
Et la loi du... Oui, mais c'est En Guerre, ça.
La loi du marché, Un autre monde et En Guerre, c'est les trois films où c'est.
Que des non professionnels.
Alors, En Guerre, il y a, dans Un autre monde, il y a Sandrine Kiberlin et Anthony Bajon aussi. Dans La loi du marché, il y en a qui me l'a fait à l'envers, c'est Sofiane Garab,
qui
est devenu très très connu, mais en fait il était déjà acteur, mais je ne savais pas, je crois que c'était un petit mec de banlieue, mais je le trouvais génial, il savait que je voulais des noms professionnels, donc il n'était pas connu à l'époque, Sofiane, et donc il est arrivé comme un petit mec de banlieue, et je dis il est super.
Excellent comédien du coup.
Excellent comédien, et Xavier Mathieu qui a une scène dans La loi du marché. Quand je l'ai rencontré, j'avais dit à la directrice de casting, Coralie Amedeo, je lui avais dit, tu vois, en fait, le personnage que j'imagine là, c'est un gars un peu comme le gars qui a le leader de CGT de Conti, de Continental. Mm. Et donc, Xavier Mathieu. Et arrive Xavier Mathieu au casting. Donc, il fait les essais, super. Je dis, mais c'est incroyable, t'as trouvé Xavier Mathieu. Et je ne savais pas que Xavier, à ce moment-là, avait commencé une carrière de comédien. Ouais. Donc, il y avait deux acteurs qui sont passés en loose day dans le casting. Voilà.
C'est un travail titanesque de recruter des gens non professionnels.
Des professionnels, c'est titanesque aussi.
C'est aussi titanesque l'un que l'autre ?
Non, j'en rencontre moins quand c'est des acteurs professionnels. Mais moi, j'envisage la fiction. Mais vraiment, depuis le départ, comme un documentaire sur les acteurs. Donc, les cinq films que j'ai fait avec Vincent Lindon, c'est un documentaire sur Vincent Lindon.
On le voit vieillir, d'ailleurs. Enfin, on voit des choses sur Vincent Lindon.
En fait, le temps qui passe, mais au-delà de ça, il y a quelque chose. Moi, je ne fais des films qu'avec ce que je suis, qu'avec ce qui me traverse, et qu'avec ma propre vie, mes propres interrogations. Comme je ne suis pas un extraterrestre, il y a des chances que ça croise des centres d'intérêt d'autres personnes. Et après, je vais choisir des hommes et des femmes, des comédiens professionnels, non professionnels, mais les professionnels. Il y a une forme de documentaire sur eux hors saison. Il y a une forme de documentaire sur Guillaume Canet, sur Albert Rohrwacker, Mademoiselle Chambon. Il y a du documentaire sur Sandrine. Je ne crois pas qu'on invente quelque chose. Ce que j'adore chez l'acteur, c'est quand il est disponible à me montrer ce qu'il est réellement. C'est cet état de disponibilité qui m'intéresse. Donc, c'est du documentaire.
Donc, tout ce qu'on regarde, c'est des documentaires sur des acteurs, en fait.
Ouais, pour moi, ouais.
Vous vous êtes beaucoup documenté avant vos films. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez rencontré beaucoup de gens à qui il est arrivé des histoires similaires que dans En Guerre ou que dans La loi du marché. Ça ne suffit pas d'aller leur parler à ces gens qui existent pour de vrai. Il faut les mettre dans les films.
Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est aussi la manière dont les corps racontent une histoire. Édouard Louis a beaucoup parlé de la manière dont le corps a intégré la vie et la violence sociale. Donc ça, c'est absolument passionnant. Mais les corps, ils ont la mémoire de ce qui s'est passé toute la vie. Et filmer un individu qui a passé 30 ans devant une machine, c'est pas le même corps que quelqu'un qui a passé 30 ans dans un bureau. Et c'est pas le même corps, mais c'est pas la même langue. Et j'ai besoin, moi, pour accéder à une certaine vérité, que d'abord ça soit bien documenté, que la narration soit la plus juste possible pour qu'il y ait des rebondissements, pour que ça soit passionnant. Mais ensuite, quand c'est filmé, quand ces acteurs professionnels, que ce soit de très grands acteurs, qui ont cette capacité de nous révéler leur hyper secret, leur hyper intime, et les acteurs non professionnels, j'attrape quelque chose de leur propre histoire, avec leur corps, avec leur langage. Ils vont encore mieux dire les mots que si c'était des acteurs professionnels. Et en même temps, je dis ça, mais c'est juste mon petit bricolage à
oui,
moi.
Oui, parce
en
que
fait.
Vous faites, vous mixez toujours.
J'érige pas ça en vérité absolue. C'est qu'il y a des gens qui ont fait des films extraordinaires, il n'y a que des acteurs professionnels ou que des acteurs non professionnels. Donc c'est un petit peu, moi, j'essaye d'adapter le manche de l'outil à ma main. Donc je fais un peu comme je peux.
Est-ce que quand même on se sent une responsabilité plus forte vis-à-vis de ces comédiens qui peuvent derrière avoir des envies de cinéma ?
Là, j'ai quand même travaillé avec beaucoup, beaucoup de non professionnels. J'ai pas eu d'histoire où des gens m'ont dit « Ah, je vais devenir acteur ». Il y a des choses touchantes, parce qu'il y a un gars qui a fait trois de mes films, La loi du marché, En guerre, un autre monde. Et ce gars, qui travaille pas du tout dans le cinéma, qui est un cadre d'entreprise, Il m'a dit, après, il m'a dit, tu sais, moi, je rêvais d'être acteur quand j'avais 18 ans. Et puis finalement, j'ai pas su peut-être imposer mon désir. Et donc, j'ai fait ma vie à un endroit. Il est très heureux à cet endroit. Mais là, c'est très étrange. Il s'est retrouvé deux fois à Cannes, une fois à Venise, que je l'ai emmené à chaque fois.
À la Mostra et au Festival.
Ah ouais, voilà. Et c'est venu percuter son rêve d'enfance. Pour autant, ça n'a pas été un remembrement total de sa vie, mais c'est pas rien. Ouais. Mais jamais personne me l'a demandé. Et puis après, si quelqu'un dit, mais tu crois que je pourrais faire d'autres films ? Je dis, mais qui je serais pour t'interdire ? Fais-le, et puis tu verras si tu peux. Tu es libre, hein, peut-être.
Il y en a une ici qui a déjà fait des castings.
C'est vrai.
Ouais, c'est Marine Bausson. C'est l'heure de Fraîcheur Marine. Dans Jusqu'ici, tout va bien.
Cher Marie, s'il y a bien un jour dans ma vie où j'étais impressionnée, et c'est d'ailleurs peut-être le seul, il n'y en avait qu'un seul, c'est celui où j'ai testé en direct un appareil qui permettait de faire de la musique en touchant des objets qu'on connectait à une petite machine, et où j'ai joué à l'orange et à la fourchette une chanson de Clara Isé.
C'est vrai que c'était impressionnant.
C'était impressionnant, mais après je vais être honnête avec toi, je n'étais pas du tout satisfaite de moi, j'avais pas les bonnes notes, j'ai chanté un peu faux par stress, hein, sinon je chante évidemment merveilleusement. Mais je me suis dit qu'il était temps que je reprenne des cours de musique, car visiblement ceux de mon enfance n'ont pas servi à grand chose, et pourtant j'en ai passé des heures à essayer de dessiner des clés de sol à peu près correctes. Non, franchement, j'en suis arrivée à un truc, c'est que le violon, apprendre le violon et dessiner des clés de sol, c'est vraiment les deux trucs les plus durs à faire en musique. C'est la raison pour laquelle j'ai été ravie d'apprendre que la semaine dernière, coup de tonnerre dans le monde de la musique, buzz alerte, Francis Cabrel a fait des tutos sur YouTube pour apprendre à jouer ses chansons comme lui à la guitare. Voilà, clairement, on n'a rien fait de plus excitant depuis les tutos bonne manière de Nadine de Rothschild et les vidéos sur les paires de gnocchi d'Hélène Meyer les précieuses. Francis Cabrel, donc, fait des tutos sur YouTube, c'est une phrase mais beaucoup d'infos. Hein, Francis Cabrel, il a YouTube déjà, et c'est quand même impressionnant. Et d'ailleurs, il est très actif puisqu'il a 161K de followers. Oui, parce que sur Internet, maintenant, on dit plus 1000, on dit K. Voilà. Pourquoi ? Eh bien, parce que déjà, les gens, ils ont envie de se la péter, mais surtout parce qu'en grec, 1000, ça se dit kilo. Donc, pour faire simple, on dit K. Voilà. Enfin, moi, je dis pas K, parce que je trouve ça stupide, mais les jeunes le font. Et je vous le dis, les jeunes, il est hors de question que j'utilise ce K pour dire 1000. Je ne dirais par exemple jamais un K-pat pour dire un 1000-pat, c'est mort. Mais revenons donc à Francis, le youtubeur. Francis, il a pas le temps, il produit du contenu. Donc, il en est pas non plus à dire « Hey, salut les fololos, c'est Francis Cabrel », le diminutif pour dire 1000 brel. Wow. Aujourd'hui, je fais un partenariat avec la Feria de Nîmes, tout ça pour dire cette blague. Avec la Feria de Nîmes, non, je rigole, bien sûr, hein, la corrida, c'est nul, bye là. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon TikTok pour toujours plus de blagues. Non, mais enfin, il sort beaucoup de vidéos. Les gens adorent, visiblement. Il a que des commentaires gentils. Voilà, vous cherchiez un endroit bienveillant sur Internet, c'est le YouTube de Francis Cabrel. Voilà, c'est incroyable. Les gens, ils disent bravo Francis, merci Francis, t'es super. Pas de doute, c'est le métaverse. Non, mais je veux dire, d'où ? Normalement, les gens, ils devraient lui dire c'est nul, elle est grosse, comme sous toutes les vidéos de tout le monde. Ah non, pardon, ça, c'est que sous les miennes. Donc, je m'égare. Donc, dernière info, Francis veut transmettre son savoir-faire et moi, j'ai décidé de tester, apprendre la musique avec lui. Et c'est hyper gentil de sa part à Francis de m'apprendre tout. Sauf que j'ai regardé les vidéos et c'est pas fastoche.
Ça c'est un ré mineur avec un fa, toujours le fa avec le pouce, qui nous évite de faire le barré, voilà. Et qui surtout nous prive de l'index. Après il y a le do.
Voilà. Bon, c'est pas pour les débutants visiblement, hein, sinon il dirait tu appuies sur la corde 1 avec ton petit doigt, sur la corde 2 tu fais rien, puis tu fais comme une petite patte d'ours et tu mets tes doigts sur les autres cordes, puis après tu fais gling gling et avec un peu de chance ça fera je l'aime à mourir. Bon ben là ça marche pas. J'ai rien compris. En vrai, j'ai rien compris. Après peut-être que pour apprendre la guitare, j'aurais dû acheter une guitare. C'est vrai,
c'est un détail.
Mais j'ai quand même tout regardé, toute la vidéo, et j'ai trouvé ça hyper intéressant de l'écouter parler de sa musique et de comment il fait sa musique. Il n'y a pas que moi que ça l'a intéressé, parce que en 10 jours, il a fait 340 000 vues, donc 340K de vues. Donc visiblement, pour réussir un truc qu'on filme, soit faut Francis Cabrel qui raconte comment il joue ses chansons, soit mettre Vincent Lindon dedans. Mais moi, je peux toujours pas, en tout cas, te jouer Petite Marie à la guitare, Marie. Alors pour te remonter le moral, viens, je t'amène manger un cafeuille.
Oh, on retrouve tous les jours Fraîcheur Marie en podcast sur France Inter en spectacle le 14 mai, c'est au théâtre de la Tour Eiffel où elle présentera le Pride Comedy Show. On m'a dit d'aller vite. Stéphane a brisé, vous chahutez avec nous depuis 17h08, on n'a plus beaucoup de temps et un jeu de mots un peu nul à rentabiliser. Vous nous avez proposé trois films sous-tendus par la question de la lutte des classes. Alors voilà, on vous propose une interview, vous en faites ce que vous voulez.
C'est l'interview classe, lutte des classes ou les deux ?
Être réalisateur de cinéma. Classe, lutte des classes ou les deux ?
Lutte des classes.
Faire un film avec Vincent Lindon. Classe, lutte des classes ou les deux ?
Les deux.
L'école ?
c'est classe, c'est lutte des classes ou c'est les deux?
Enfermé en classe.
Ouais. Être invité sur France Inter, c'est classe, c'est lutte des classes ou c'est les deux?
Sur RTL, c'est lutte des classes, mais pour moi, mais c'est ouais, c'est classe France Inter.
Lire Le Capital de Karl Marx.
Bah, si vous le lisez en allemand, c'est classe.
Et le MeToo Cinéma, c'était, ce sera la dernière.
Lutte des classes.
Lutte des classes.
C'est lutte des classes, absolument.
Merci beaucoup Stéphane Brisé. Je rappelle que sur arte.tv, on peut voir 4 de vos films en ligne depuis mercredi et jusqu'au 31 octobre, le 22 mai. Votre film En Guerre sera aussi diffusé sur la chaîne Arte. Puis il y a surtout un entretien avec vous de 50 minutes où vous avez le temps de dire beaucoup de choses. Lundi, on recevra le scientifique Raphaël Aumont qui nous donnera des conseils pour mélanger du chocolat et de l'oignon. Je vous promets, c'est super. Passez un excellent week-end. On vous dit à lundi.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit. APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Grand frais.
Oui, c'est l'envoyé spécial. Désolé pour mon intervention en JT 13h, je peux pas. J'ai grand frais. Faut dire que eux aussi sont très forts pour le direct. Et c'est une bonne info pour tous les gourmets.
Chez Grand frais, on travaille en direct avec plus de 1000 producteurs français pour vous garantir qualité et fraîcheur au quotidien. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais!
Le meilleur marché.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite. Oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer. Oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout